bien qu'il avait précédemment publié dans des revues et collectifs, N'importe quelle page est le premier recueil de poésie d'André Roy. D'abord paru en août 1973 aux Herbes Rouges, il est ensuite réédité en 1984, où il est augmenté d'un autre texte, l'extrait d'Elle, qui avait précédemment été publié en Belgique dans la revue Forme en 1977. N'importe quelle page est un titre qui porte inévitablement à interprétation. Précepte pour une lecture discontinue ou alors affirmation formaliste, mais ce qui saute aux yeux quand on s'y penche le moindrement, c'est l'orthographe surprenante. En effet, en écrivant « qu'elle », formée d'une conjonction suivie du pronom « elle », plutôt que la forme attendue du déterminant « qu'elle », Roy introduit un élément, un signifiant supplémentaire. L'inscription dans le titre du pronom « elle », qui est, à une exception près, le seul pronom personnel employé dans l'œuvre, a pour effet de mettre en évidence le sujet féminin, central dans le recueil. On est bien loin du « je » et du masculin qui prédomineront dans ses œuvres subséquentes. Dans une entrevue menée par Joseph Bonenfant et Richard Giguère en 1980, André Roy s'exprime à propos de son rapport au corps féminin dans ses premières œuvres. Donc, je cite, « C'est peut-être mon rapport transposé à ma mère, qui avait déjà présidé au commencement de mon écriture, je n'en sais rien. » Il affirme plus loin avec certitude, « On écrit toujours pour sa mère, toujours. » Il situe en effet sa venue à l'écriture comme étant intimement liée à la séparation avec sa mère à cause de son départ de la maison pour s'en aller pensionnaire dans un collège classique. Cette observation, à saveur psychanalytique, retrouve des échos plus loin dans l'entrevue lorsqu'il mentionne Lacan et parle de son rapport à la psychanalyse, qu'il considère alors être un important outil d'analyse pour le cinéma et la poésie. Il poursuit en inscrivant ses œuvres dans une filiation avec celle de Nicole Brossard et Huguette Gaulin, puisqu'il identifie ses lectures du moment comme l'ayant influencé à inscrire ce sujet féminin dans ses œuvres. Dans n'importe quelle page, ce « elle », ce sujet féminin, c'est surtout un corps dans l'espace. Il est difficile d'y déceler de personnages ou d'identités bien délimitées. On peut d'ailleurs postuler que le pronom « elle » n'y représente pas une seule personne, ou du moins, n'occupe pas une seule perspective. En effet, le titre vient encore une fois nous donner une piste possible, celle de l'inimportance de la délimitation ou de la définition du sujet féminin. Dans l'œuvre, on peut observer une fluidité du corps qui repose autant dans ses manifestations et sa construction que dans les changements de perspective, le caractère insaisissable de son identité. En effet, la perspective qu'on adopte en tant que lectrice est celle d'un observateur, d'une spectatrice ou encore d'une caméra. En adoptant cette prise de vue cinématographique, la poésie de Roy ne nous donne pas, ou que très rarement, accès à l'intériorité du sujet. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on écarte son affect. L'affect apparaît dans ses manifestations physiques, semble transpirer du corps en mouvement. Ainsi, on pourra entre autres lire les poils dans la pose d'un ballet, où l'on peut à la fois observer la réponse physiologique à une émotion et l'inscription du corps dans un imaginaire de la représentation artistique. La présence du théâtre et du cinéma se manifeste donc aussi bien par la perspective adoptée que par ses réseaux d'images. Mais surtout, ce corps est décrit comme fluide, presque liquide. Dès le premier poème du recueil, les larmes, que Roy nomme des aplats d'eau, ont pour effet de délier le maquillage. L'affect que manifeste le corps est ainsi construit dans un rapport à l'art visuel qu'on peut également observer lorsque le corps se déteint. Les larmes occupent une place assez importante dans le recueil. Elles ne font pas seulement émaner du corps, mais l'influencent également. Dans le vers, c'est des pleurs qu'elles ploient. On peut bien voir cette dynamique où le corps fléchit sous les pleurs, comme sous une charge ou un vent violent. Il est intéressant de se demander alors de qui proviennent ces pleurs, question qui reste sans réponse. Dans un autre poème, le liquide qu'est ou que produit le sujet féminin dépasse les simples larmes pour ouvrir la voie à un certain érotisme, ou du moins à un rapport à la sexualité. On pourra ainsi lire « Buvant assise dans le regard, coulante intense, des trous comme des larmes, ses continents même en aquarium, et si bien de sel et miraculeuse, mais recroquevillée dans la salive tue. » Le sujet semble à la fois intégrer et sécréter le liquide, se fait passage. Plusieurs fluides sont ici mis en relation, larmes, salive et potentiellement cyprine. Mais on remarque que si la sexualité est bien présente dans ce recueil, elle y est implicite, contrairement aux œuvres de Roy qui suivront. Et la sexualité manifestée est plutôt de l'ordre de la tension, des mots au sens multiple, des formations ambiguës. La bouche, sensuelle et productrice d'une sonorité qui traverse le recueil, est d'ailleurs un élément corporel central dans l'œuvre et canalise cet érotisme sous-jacent. C'est le corps et ce qu'il produit qui sont mis de l'avant et non pas son contexte qui, lui, reste incertain. Une autre manifestation de la fluidité du corps repose dans la description de l'ossature. En effet, les os, ceux-là même qui sont censés servir de charpente au corps, sont construits dans une certaine malléabilité, avec la mention, entre autres, de draps de moelle. L'ossature est donc instable, ce que vient appuyer le verre des os pour ainsi dire, qui inscrit le corps dans une incertitude et renforce son caractère insaisissable. Ailleurs, alors que le sujet féminin est posé comme cloisonné en ses veines, ce qui semble être une intoxication introduit une tension dans le corps entre fluidité, celle des veines, et cloisonnement. À la page suivante, on pourra lire le poème qui suit. Vorace autant des yeux, comme une seringue ou pieuvre, autant liquide que j'ai, le regard des aiguilles et l'heure de plaire malgré elle, à tout le moins à l'envers. L'intoxication qui semble se révéler par la mention d'une seringue et d'aiguilles introduit une autre forme de fluidité dans le corps, en occasionnant un certain décentrement. Le corps, déboussolé, ensommeillé, bien que positivement représenté, n'a plus vraiment de contrôle sur lui-même. Analogue à ce décentrement, la fluidité se retrouve aussi dans l'absence de limites du corps. En effet, celui-ci, tour à tour, explose, éclate sans ouvrir, se fond dans les décors, se décompose et s'éparpille. Dans cette porosité du corps et son décentrement, s'incruste la possibilité d'une multiplicité de perspectives, d'identités. C'est dans un jeu de regards, de miroirs et de masques que se déploie, se répand et se multiplie le corps. N'importe quelle page nous donne accès à un corps féminin inscrit dans un imaginaire de la représentation, mais le contexte reste cependant insaisissable. Spectacle de danse, pièce de théâtre, cinéma, film pornographique, représentation érotique, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas seule. Elle est observée et pas seulement des lectrices. Les regards, des yeux qui sont qualifiés de déshabillés, hantent le texte, construisent à eux seuls un décor, un contexte dans lequel évolue le sujet. Il y a donc auditoire, mais la distinction entre la réception et la représentation, entre une assistance et une actrice, n'est pas claire. En effet, le sujet semble elle-même adopter cette perspective. Elle semble parfois être le corps en représentation et parfois le corps qui ressent, qu'on aurait plutôt tendance à associer à la figure d'une spectatrice. Il faut cependant garder en tête que ce « elle » n'est peut-être pas unique et peut-être habité par de multiples identités tout au long du recueil. La dissimulation de l'identité, entre autres par l'image du masque, participe également à la fluidité de l'identité. Empruntant au domaine du théâtre, la figure du masque peut représenter la superposition de différentes identités qui se cachent l'une derrière l'autre et par extension, de différentes couches de sens. De plus, le maquillage est mentionné dès le premier poème, pourrait être interprété comme une forme de dissimulation, de performance théâtrale, tout comme le masque. Le fait que celui-ci se défait par les larmes peut indiquer une possible dynamique entre l'affect et la dissimulation au sein du contexte de la représentation. De la même manière, les masques sont ménagés, donc utilisés avec modération. Dans cette même logique, le verre délire derrière la buée, elle pince dans la bouche une plainte, manifeste une certaine retenue, un désir de cacher, tout en venant rejoindre la thèse de l'intoxication. Le miroir est un autre motif qui contribue au flou de l'identité. Dans la perspective du corps qui se répand, le miroir permet au sujet non pas de s'observer, mais de laisser sa trace. On pourra ainsi lire « Contemple l'éteint si déteint ». Dans le miroir, elle est autant actrice qu'observatrice. On ne sait plus qui observe et qui est observé, qui est désirante et qui est désirée. Il s'opère alors une confusion entre les rôles et les perspectives qui peut potentiellement engloutir le lectorat. En effet, le seul autre pronom personnel, outre le « elle » qu'on peut trouver dans le recueil, est présent dans le vers « Entre vous, ménage ces masques ». Le pronom « vous » implique le lectorat dans une pluralité observatrice. Il inscrit à même l'œuvre, comme entourant le sujet. « Vous » est en quelque sorte posé comme le contexte de représentation dans lequel le sujet s'inscrit elle-même. La multiplication qu'opère le miroir se retrouve aussi dans le travail sur l'audition, par l'écho et le métronome qui introduisent un rythme continu, une répétition inlassable. Finalement, un fluide peut être défini comme tout corps qui épouse la forme de son contenant. Dans cette perspective, si le pronom « vous » et les regards sont ce qui contextualise et encadre le corps féminin, ce dernier se répand dans les limites qu'on lui offre. C'est un corps, une féminité, qui avale tout, s'imprègne, s'expose et remplit toutes les fissures, vient même en parasiter le texte en le dénaturant. Une piste d'interprétation possible serait celle du corps maternel. Les paroles de Roy, dans l'entrevue mentionnée précédemment, semblent la confirmer en faisant allusion à ce rapport transposé à sa mère. Non seulement est-ce le corps maternel, mais le corps enceinte, voire le corps qui accouche, qu'on peut voir se découper entre les pages. Sous cette interprétation, chaque élément de la fluidité y trouve sa place. Les larmes, les os, les draps, les aiguilles et même l'auditoire. De plus, la rondeur du ventre y est mentionnée une fois et s'inscrit dans le motif plus large de la circularité qui, tout comme le faisait Monique Wittig dans Les Guerrières, paru seulement 4 ans avant la parution de N'importe quelle page, introduit une symbolique de la féminité. Le corps enceinte devient alors la figure même de la fluidité, à la fois contenu et contenant, immergé dans l'affect, et opère un dédoublement. Ce premier recueil s'inscrirait ainsi dans un acte créateur qui marquerait la venue au monde de l'écriture et le commencement de la vie d'une œuvre qui est, à ce jour, toujours en construction.